Chapitre 2. Querelle. Les îles d'outre-mer ne comptent que trois sites dignes du temps du voyageur. Le premier est l'ossuaire de glace de l'île Perlieuse. Là, les Outriliens enterrent depuis des siècles leurs plus grands guerriers, tandis que par tradition, les femmes sont inhumées dans les limites des terres de leur famille. Mêler son sang, sa chair et ses os à la terre pauvre de la plupart des propriétés a valeur d'ultime partage aux Férociens. Au contraire, la coutume veut qu'on donne les hommes à la mer. Seuls les plus considérables des héros se voient ensevelis dans le champ de glace de l'île Perlieuse, et les monuments qui se dressent au-dessus des tombes sont sculptés dans la glace. Les plus anciens sont totalement défigurés par les intempéries. Encore que, de temps en temps, il semble que les habitants de l'île les renouvellent. Dans la volonté de retarder le lissage inévitable des sculptures, on leur donne des proportions de nombreuses fois supérieures à la réalité. Et les créatures représentées reprennent en général les signes claniques des héros. C'est ainsi que le visiteur peut découvrir des ours immenses, des phoques monstrueux, des loutres gigantesques et un poisson qui tiendrait à peine dans un char à bœufs. Le second site intéressant se nomme la caverne des vents, où réside l'oracle des Outriliens. D'après les uns, il s'agit d'une jeune fille nubile qui va toujours nue malgré les bourrasques glacées. Selon d'autres, c'est une vieille femme d'un âge inconcevable, vêtue d'un épais manteau en peau d'oiseau. D'autres encore affirment que ces deux personnages n'en font qu'un. L'oracle ne sort pas pour accueillir tous les voyageurs qui se présentent à sa porte. De fait, l'auteur ne l'a même pas entreaperçu. Sur plusieurs arpents, le sol autour de l'entrée de la caverne est jonché d'offrandes, et la légende veut qu'on court à une mort assurée du seul fait de se baisser pour en toucher une. Le troisième lieu qui vaille les efforts du visiteur est l'immense île de glace d'Aslevial. L'archipel d'outre-mer compte de nombreuses terres traversées de bout en bout par des glaciers, mais celui d'Aslevial recouvre complètement la sienne. On ne peut l'aborder qu'à l'occasion d'une marée particulièrement basse, qui dénude la frange d'une grève noire et rocheuse sur le côté oriental de l'île. De là, il faut escalader le flanc du glacier à l'aide de cordes et d'une hache. On peut se faire assister de guides embauchés sur l'île Rojon. Leurs services sont chers, mais réduisent considérablement les risques de l'aventure. Le chemin qui conduit au monstre du glacier est traître. Ce que l'œil prend pour un solide pont de neige compact peut se révéler n'être qu'une mince croûte de flocons jetée par le vent au-dessus d'une crevasse. Pourtant, malgré le froid, l'inconfort et le danger, l'excursion vaut la peine d'être tentée pour voir le monstre prisonnier de la glace. À votre arrivée sur place, vos aides s'emploieront à débarrasser de la fenêtre qui donne sur la bête la dernière couche de neige tombée. Une fois le travail fini, le voyageur pourra se laisser aller tout son content à l'ébahissement, car bien qu'on ne voit guère que l'échine, les épaules et les ailes de la créature, et ce, de façon indistincte, la taille gigantesque du monstre reste incontestable. Chaque année, l'épaisseur de glace rend la vision un peu plus floue, et un jour, ce lieu étrange ne survivra plus que dans la mémoire des hommes. Périple dans les contrées du Nord, de Kron, Ève font froide. Pendant une heure, peut-être après le départ de Lourdes, je contemplais fixement le feu rechargé. Ma conversation avec lui m'avait laissé le cœur accablé. Quel fardeau de tristesse il portait à cause de la cruauté de gens qui ne toléraient pas sa différence. Un flutio rouge. Eh bien, je ferais tout pour lui en procurer un autre, et peu importait que cela le mît ou non dans de meilleures dispositions pour apprendre l'art. Je me demandais ensuite comment la reine réagirait quand Ambre lui soumettrait mon marché. J'éprouvais un regret à présent, non d'avoir décidé d'exiger sa promesse, mais de ne pas avoir dit à Ambre que je m'en chargerais en personne. Il me paraissait lâche d'envoyer le vieil homme à ma place, comme si je craignais de me présenter devant ma souveraine, mais bast, il n'était plus temps d'y revenir. Après avoir longuement tourné et retourné le sujet dans ma tête, je me rappelais les petits manuscrits que j'avais fourrés dans ma manche. Je les sortis un à un. L'écorce fine qui avait servi de support au texte était déjà devenue raide et friable, et résistait quand j'essayais de la dérouler. Avec d'infinies précautions, je réussis à ouvrir complètement un des manuscrits, et je le maintins à plat en posant un objet pesant à chacun de ses coins. Je dus ensuite approcher un candélabre pour distinguer l'écriture en pâte de mouche à demi effacée. Humbre ne m'avait pas parlé de ce message-là. Il disait simplement « Sévère Prêtecorne et sa femme Geln, de Bourg de Castelserre, ont le vif tous les deux. Il a un molosse, elle un terrier. » Pour toute signature, l'esquisse d'un cheval pie. Rien n'indiquait de quand datait le billet. L'avait-on envoyé directement à la reine, ou bien s'agissait-il d'un exemple des placards diffamatoires affichés en place publique afin de dénoncer les membres du lignage qui refusaient de s'allier au pie? Il faudrait que je pose la question à Humbre. Quand je déroulais le second parchemin, je reconnus celui dont le vieil assassin m'avait parlé quelques heures plus tôt. C'était le plus récent des trois, et le moins difficile à ouvrir. On y lisait simplement. Selon la reine, avoir le vif n'est pas un crime. Dans ce cas, pour quel motif a-t-on exécuté ces gens? Suivait la liste qu'avait mentionnée Humbre. Je l'examinais en remarquant au passage deux groupes de personnes du même nom qui avaient péri ensemble. Je serrai les dents en formant le vœu que les victimes ne fussent pas des enfants, bien que j'eusse été bien incapable d'expliquer en quoi le supplice d'adulte ou de vieillard eût été plus supportable. Un seul nom me parut familier, sans que je pusse néanmoins avoir de certitude. Relvitajon n'avait peut-être rien à voir avec Vitajon. Une femme de ce nom vivait dans les environs de Corvecolle, et je l'avais croisée plusieurs fois chez Rolf le Noir. À l'époque, je crois, Fragon, l'épouse de Rolf, espérait que Rélie et moi nous éprendrions l'un de l'autre, mais la jeune femme n'avait jamais manifesté plus qu'une politesse sans chaleur à mon égard. Je me mentis en me répétant qu'il ne s'agissait sans doute pas de la même personne, et je m'efforçais de ne pas imaginer les boucles de ses cheveux châtains en train de se racornir sous la chaleur des flammes. Le manuscrit ne portait ni signature, ni symbole d'aucune sorte. Le dernier était roulé si serré qu'on l'aurait cru soudé. C'était probablement le plus ancien. Comme je l'ouvrais de force, il se brisa en morceaux, deux, trois, et pour finir, cinq. Je le regrettais, mais il n'y avait pas d'autre moyen de le lire. S'il était resté plus longtemps sous forme de cylindre, il serait tombé en morceaux infinitésimaux impossibles à déchiffrer. Et, quand j'eus achevé ma lecture, je me demandais si ce n'était pas là l'espoir et l'intention d'Humbre. Le manuscrit était arrivé avant la disparition du prince. C'était à cause de lui qu'Humbre avait dépêché de toute urgence un cavalier chez moi pour me supplier de me rendre sur le champ à Castelserre, où il m'avait annoncé la menace anonyme. À présent, j'avais le texte sous les yeux. Faites justice et nul ne saura jamais rien. Dédaignez cet avertissement et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Mais Humbre avait omis de me rapporter le contenu des lignes précédentes. L'écorce avait bu l'encre de façon inégale, et la surface incurvée ne facilitait pas la lecture. Pourtant, à force d'entêtement, je parvins à reconstituer le texte et à le lire. Alors, je me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil, le souffle court. Le bâtard au vif est vivant, nous le savons. Il est vivant et vous le protégez parce qu'il vous a servi. Vous l'abritez tandis que vous laissez d'honnêtes gens mourir parce qu'ils sont du lignage. Ces gens, ce sont nos épouses, nos maris, nos fils, nos filles, nos sœurs et nos frères. Peut-être mettrez-vous un terme à ce massacre lorsque nous vous aurons infligé la douleur de perdre un être cher. De quelle profondeur doit être l'entaille pour que vous saigniez comme nous? Beaucoup des secrets que taisent les ménestrels nous sont connus. Le vif coule toujours dans le sang des loin-voyants. Faites justice et nul ne saura jamais rien. Dédaignez cet avertissement, et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Il n'y avait nulle signature d'aucune sorte. Je revins très lentement à la réalité. Je songeais aux manœuvres d'Humbre, aux raisons pour lesquelles il m'avait caché cette information. Dès la disparition du prince, dès l'instant où le péril s'était avéré, Il m'avait fait mander et croire que l'épi avait transmis à la couronne une missive menaçant de voir, avant qu'il s'évanouît dans la nature. De fait, on pouvait interpréter ce message ainsi, mais c'était surtout moi qu'on pointait du doigt. Imbre m'avait-il rappelé afin de me protéger ou pour mettre les loin voyants à l'abri du scandale? J'écartai ces questions de mon esprit et me penchai à nouveau sur l'encre passée qui couvrait l'écorce. Qui était l'auteur? En général, les pies aimaient signer leur missive de leur emblème à l'étalon. Celle-ci était anonyme, comme celle qui portait la liste des morts. Je les plaçai en vis-à-vis, et je constatai une similarité entre certaines lettres. Elles auraient pu être de la même main. Le texte signé du cheval pie était rédigé d'une écriture libre, aux lettres plus grandes et ornées de fioritures. Cela indiquait peut-être un autre auteur, mais n'avait guère valeur de preuve. Dans les trois cas, le support restait le même, ce qui n'avait rien d'étonnant. Le bon papier coûtait cher, tandis que n'importe qui pouvait prélever une bande d'écorce sur un bouleau. Cela ne menait pas obligatoirement à la conclusion que ces billets provenaient d'une seule source, ni même de deux. Je m'efforçais d'opposer plusieurs hypothèses pour voir lesquelles résistaient. Avant même l'enlèvement du prince, existait-il déjà chez les vifiés deux factions qui cherchaient à mettre un terme aux persécutions de leurs semblables? Ou bien partais-je simplement de ces prémices parce que j'aspirais à ce qu'elles fussent vraies? Je trouvais déjà inquiétant que Rolf le Noir et ses amis eussent nourri des soupçons sur ma véritable identité et tiré la conclusion que le bâtard au vif n'avait pas péri dans les cachots royaux. Je n'avais nulle envie que l'épi apprenne que Fitz Chevalerie avait survécu. Je parcourus à nouveau la liste des morts. J'y trouvai un autre nom, Nat Desmarais. J'avais peut-être fait sa connaissance lors de mon séjour chez Rolf le Noir, mais je n'en étais pas certain. Tambourinant des doigts sur la table, je m'interrogeais. Devais-je risquer une visite à la communauté vifière de Corvecol? Dans quel but? Demander aux gens de là-bas s'ils avaient fait parvenir à la reine un message de menace contre ma vie? À première vue, ce n'était pas la meilleure stratégie. Peut-être cette lettre ne relevait-elle que d'un coup d'audace. Du coup, si je me rendais chez eux, cela confirmerait à leurs yeux que j'étais encore en vie malgré les années, et, à tout le moins, je représenterais pour eux un otage de grande valeur, excellent moyen de placer les loin voyants en porte-à-faux si on dévoilait ma véritable identité au public, que je fusse vivant ou mort. Non. L'heure n'était pas aux confrontations. En vérité, peut-être Imbre avait-il eu raison en m'obligeant à quitter ma maison trop exposée et en feignant que les menaces n'étaient que du vent. Mon ressentiment contre lui s'effaça. Néanmoins, je devais le convaincre qu'il aurait mieux fait de ne pas me dissimuler la vérité. Que redoutait-il? Que je ne vole pas au secours du prince et qu'au contraire je me perde dans la nature pour recommencer ma vie ailleurs? Me croyait-il capable d'agir ainsi? Je secouai la tête. Manifestement, il était grand temps que nous nous expliquions, lui et moi. Il devait accepter le fait que j'étais adulte, au règne de mon existence, et en mesure de prendre seul mes propres décisions. Il fallait aussi que je parle à Ketriken. Je demanderai à Imbre de m'obtenir une audience avec elle. Ainsi, je pourrais lui dire mes craintes pour ma fille et lui demander de promettre de laisser Horty tranquille. Un entretien avec le fou était indispensable aussi. Mieux valait soigner cette plaie suppurante entre nous. Telles étaient mes pensées quand je quittai la tour d'Imbre et regagnai mon lit. Je dormis mal. Horty ne cessa de se cogner contre mes rêves comme un papillon cherchant à se brûler à la flamme d'une lanterne. Je dormis, mais du sommeil de celui qui dort arc-bouté, le dos contre une porte assiégée. J'avais conscience de sa présence. Je la sentis d'abord décidée, puis furieuse. Le matin venant, elle désespéra, et ce fut contre ses implorations que j'eus le plus de mal à maintenir mes murailles dressées. « Je t'en prie, je t'en prie !» Elle ne fit que répéter ces quelques mots, mais son art les transforma en une tourmente suppliante qui mit à mal tous mes sens. Je me réveillais le crâne battant d'une migraine sourde. Toutes mes perceptions me semblaient à vif. L'éclat jaune de la bougie me paraissait trop brillant, et tous les bruits trop forts. Le remords qui me rongeait d'avoir fermé mon esprit à ma fille n'arrangeait rien. Assurément, c'était un matin où un peu d'écor selfique me serait nécessaire, et avec ou sans la bénédiction d'Imbre, j'étais bien décidé à ne pas commencer la journée sans en boire une chope. Je me levais, me débarbouillais, puis m'habillais. Le choc de l'eau glacée sur mon visage et l'obligation de me courber pour lacer mes chaussures me parurent aussi pénibles qu'une rouée de coups. Je sortis et descendis lentement aux cuisines. En chemin, je croisai le serviteur de Cire Dorée, Calcin. Je lui donnai congé pour la matinée en lui assurant que je me chargerais du petit déjeuner de son maître. Son sourire ravi et ses remerciements répétés me rappelèrent que j'avais été moi aussi un adolescent qui n'avait aucune peine à trouver une dizaine d'activités lorsqu'il jouissait d'une heure de liberté. Je m'en sentis brusquement vieilli. Devant sa sincère reconnaissance, j'éprouvai une certaine gêne. Je voulais rester seul avec le fou dans ses appartements, et je n'avais pas inventé meilleur prétexte pour cela que d'aller chercher moi-même le repas matinal du Seigneur Doré. Les bruits de vaisselle, les vapeurs et les cris de cuisine n'améliorèrent en rien mon mal de tête. Je garnis le plateau, y déposai une grosse bouilloire pleine d'eau brûlante, puis repris le chemin des escaliers. J'allais atteindre le second palier quand une jeune femme essoufflée me rattrapa.
« Vous avez oublié les fleurs de Cire Dorée, » dit-elle.
« Mais nous sommes en hiver, » grommelai-je en m'arrêtant de mauvaise grâce. « On ne trouve de fleurs nulle part. »«
Qu'importe ?»
répliqua-t-elle avec un sourire chaleureux, qui révéla la jeune fille qu'elle était.
« Il y a toujours des fleurs pour Cire Dorée. »
Je secouai la tête, perplexe devant les curieuses fantaisies du fou. Elle déposa sur le plateau un tout petit bouquet composé de tiges noires, surmontées de rubans blancs cousus en forme de boutons, auxquels deux nœuds, un blanc et un noir, apportaient une touche finale. Je me fis un devoir de remercier la jeune fille, mais elle m'assura que tout le plaisir était pour elle, et puis elle repartit vaquer à ses autres tâches. Quand je pénétrai dans notre appartement, j'eus la surprise de trouver le fou éveillé, installé dans un fauteuil près de la cheminée. Il portait une des robes de chambre raffinées de Cire Dorée, mais ses cheveux tombaient en mêlée sur ses épaules. Il ne jouait pas les gentilshommes, et cela me prit au dépourvu. J'avais prévu d'emporter à manger dans ma chambre, puis de frapper à sa porte pour l'avertir que son repas l'attendait. Enfin, au moins, Jack n'était pas là. Peut-être aurais-je l'occasion d'échanger quelques mots en privé avec lui. Il tourna lentement la tête vers moi quand je m'avançais.
« Te voici ?»
fit-il d'une voix sans force. On eût dit qu'il avait veillé tard. « Oui, » répondis-je laconiquement. Le plateau fit un bruit sourd quand je le posai sur la table, et je retournai à la porte mettre le loquet, après quoi je me rendis dans ma chambre prendre les couverts que j'avais chapardés peu à peu dans les cuisines, et je disposai les affaires du petit déjeuner pour nous deux. À présent que l'instant de l'affronter était arrivé, je ne savais plus par quel bout commencer. J'avais hâte d'en avoir fini. Pourtant, les premiers mots qui me vinrent furent « Il me faut un flûtiot rouge, avec une ficelle verte. Crois-tu pouvoir me le fabriquer ?» Il se leva, un sourire intrigué mais ravi sur les lèvres. Il s'approcha lentement de la table.
« Je pense, oui. Te le faut-il rapidement ?»«
Le plus vite possible. » Ma voix sonnait monocorde et dure, même à mes propres oreilles, comme s'il m'en coûtait de lui demander ce service. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ours. Il en avait un naguère, mais on le lui a pris et cassé, dans l'unique but de lui faire de la peine, apparemment. Il ne l'a jamais oublié.
« L'ours ? »
fit-il.
« Un personnage à part, n'est-ce pas ?»«
Sans doute, » répondis-je d'un ton guindé. Il ne parut pas s'apercevoir de ma réserve.
Chaque fois que je le croise, il me dévore des yeux, mais quand je lui rends son regard, il se carapate comme un chien battu.
Je haussai les épaules. Cire Dorée n'est pas l'aristocrate le plus sympathique du château, du point de vue des domestiques. Il poussa un léger soupir.
En effet, c'est une couverture nécessaire, mais il me chagrine de voir cet homme y réagir. Un flûtiot rouge au bout d'un fil vert, c'est dit.
Le plus vite possible, promit le fou. Merci. J'avais répondu sèchement.
Ses paroles m'avaient rappelé qu'il ne faisait que jouer le rôle de Sire Doré, et je regrettais déjà de lui avoir demandé son aide. Requérir un service n'est pas le meilleur moyen d'engager une dispute. Évitant son regard perplexe, je me rendis dans ma chambre avec ma tasse à la main, où je fis tomber une mesure d'écorce elfique. Puis je retournai à la table. Le fou faisait tourner d'un air absent le petit bouquet entre ses doigts, un petit sourire sur les lèvres. Je versai l'eau bouillante sur mon écorce elfique, puis sur les herbes de la tisanière. Il observa mes gestes, et son sourire disparut de ses yeux et de ses traits.
« Que fais-tu ? »
demanda-t-il à mi-voix. Je grognai, puis déclarai d'un ton cassant. « J'ai mal au crâne. Orti a passé la nuit à cogner contre mes volets. J'ai de plus en plus de difficultés à l'empêcher d'entrer. » Je levai ma tasse et fis tourner le breuvage. Des volutes d'un noir d'encre montaient de l'écorce elfique en infusion. Le liquide s'assombrit et j'y trempai les lèvres. C'était âcre, mais les battements sourds de la migraine s'apaisèrent presque aussitôt.
« Tu es sûr de bien faire ?»
fit le fou avec mesure. « Si je ne le pensais pas, je m'en abstiendrais, » répliquai-je avec désinvolture.
« Mais Imbre... »
« Imbre ne possède pas l'art. Il ignore les douleurs qu'il engendre et il ne comprend pas les produits destinés à soigner ses douleurs. » Je m'étais exprimé d'une voix plus dure que je ne le voulais, jaillie d'un puits de colère jusque-là inconnu. Je pris alors conscience que j'en voulais encore à Imbre de m'avoir dissimulé le texte complet du manuscrit. Comme toujours, il tentait de diriger ma vie. Il est étrange de se rendre compte qu'une émotion qu'on croyait au rancard depuis longtemps continue en réalité à bouillonner sous la surface. J'avalai une deuxième gorgée de mon infusion amère. Comme d'habitude, l'écorce elfique allait déterminer chez moi un état d'accablement en même temps que d'extrême agitation. Combinaison désastreuse, mais préférable à la traversée d'une journée tout entière avec une migraine d'art martelant mes tempes. Le fou garda une immobilité de mort pendant un long moment. Puis, il me demanda, tout en remplissant délicatement sa tasse, les yeux sur la tisanière.
« L'écorce elfique ne va-t-elle pas t'empêcher d'enseigner l'art au prince de voir ?»«
Le prince lui-même m'en empêche en ne se présentant pas à ses leçons. Écorce elfique ou non, je ne peux rien apprendre à un élève qui ne vient pas me voir. » Encore une fois, j'éprouvais une légère surprise devant mon irritation. Pour une raison que j'ignore, le fait de me trouver à table avec mon vieil ami en sachant que j'allais exiger de lui des explications faisait remonter en moi d'insolites et pénibles vérités, comme si je lui reprochais de m'avoir maintenu à l'écart pendant des semaines tout en laissant son ami croire des mensonges à notre sujet. Le fou s'adossa dans son fauteuil, sa tasse au creux de ses longues mains gracieuses. Son regard se perdit derrière moi.
« Ma foi, il me semble que c'est avec le prince que tu devrais discuter de la question. »
« C'est exact. Mais il y a un autre sujet que je dois aborder avec toi. » Malgré moi, j'avais pris un ton accusateur en prononçant ces mots. Un long silence s'établit entre nous. Un moment, le fou plissa les lèvres comme pour retenir des paroles, puis il but une gorgée de tisane. Il leva les yeux, croisa mon regard, et je fus surpris de son expression lasse.
« Vraiment ? »
fit-il à contre-cœur. Réticent, je parvins néanmoins à répondre. « Oui, vraiment. Je veux savoir ce que tu as raconté à cette Jack, qui lui laisse imaginer que je... que nous... que... » Je m'en voulais d'être incapable de prononcer les mots fatidiques, comme si je craignais de donner voix à ma pensée, de la rendre réelle en l'exprimant tout haut. Une expression singulière passa fugitivement sur les traits du fou. Il secoua la tête.
« Je ne lui ai rien dit, Fitz. Cette Jack, comme tu la désignes, possède le talent d'échafauder des théories sur n'importe quoi. Elle fait partie de ces gens à qui... il n'est même pas nécessaire de mentir. Il suffit de lui dissimuler des faits, et elle invente aussitôt toutes sortes d'histoires, certaines échevelées et complètement irréalistes, comme tu peux le constater. Elle n'est pas sans rappeler Astérie par certains côtés.
Ce n'était pas le nom à prononcer devant moi en cet instant. Astérie aussi avait cru que ma relation avec le fou dépassait la simple amitié, et je me rendais compte à présent
qu'il l'avait conduite à cette conclusion par les mêmes moyens qu'il avait employés avec Jack. Ne jamais nier, émettre des commentaires et des traits d'esprit tendancieux, le tout destiné à encourager des opinions erronées. Jadis, j'avais trouvé gênant mais amusant aussi de regarder Astérix se casser la tête sur son illusion. Aujourd'hui, je jugeais humiliant et malhonnête de la part du fou de l'avoir mené sur cette voie. Il reposa sa tasse sur la table. J'espérais avoir repris des forces, mais je me trompais, déclara-t-il du ton aristocratique de Cire Dorée. Je pense que je vais me retirer dans ma chambre. Pas de visiteurs, Tom Blaireau. Et il commença de se lever. Assieds-toi, dis-je. Nous devons parler. Il acheva de se redresser.
Je ne crois pas.
J'insiste.
Je refuse.
Son regard se perdit très loin derrière moi. Il haussa le menton. Je quittai mon siège à mon tour. Je dois savoir, fou. Parfois, tu as des façons de me regarder. Tu prononces des phrases apparemment pour plaisanter, mais tu as laissé Astérie et Jack imaginer que nous pouvions être amants. J'avais craché le mot comme une insulte. De ton point de vue, il n'est peut-être pas grave que Jack te prenne pour une femme amoureuse de moi, mais je suis incapable de traiter ce genre de supposition par-dessus la jambe. J'ai déjà dû affronter les rumeurs concernant tes préférences en manière de compagnon de lit. Même le prince de Voir m'a interrogé à ce sujet, et je suis sûr que Civil Brezinga nourrit de forts soupçons. Et ça me met horriblement mal à l'aise. Je ne supporte pas qu'on nous regarde en se demandant ce que tu fais avec ton serviteur la nuit venue. Mon ton acerbe le fit frissonner. Puis, il vacilla comme un baliveau qui sent le premier coup de la hache. Enfin, il dit d'une voix à peine audible.
« Nous savons ce qu'il en est entre nous, Fitz. Les questions que les autres peuvent se poser ne nous concernent pas. »
Il se détourna lentement pour mettre fin à la conversation. Je faillis le laisser partir. J'avais acquis depuis longtemps l'habitude de m'en remettre à ses décisions sur ce genre de sujet. Mais j'accordais soudain une grande importance au commérage du château, aux plaisanteries salaces que Heur risquait d'entendre dans les tavernes de Bourg de Castelserre.
« Je veux savoir !»
hurlai-je.
« C'est grave, et je veux savoir, une fois pour toutes, qui es-tu ? Je connais le fou, je connais Cire Dorée, et je t'ai entendu t'adresser à cette Jack d'une voix de femme, Ambre. J'avoue que c'est ce qui me laisse le plus perplexe de tout. »
Quel besoin aurais-tu éprouvé de vivre à Terrilleville sous des traits féminins? Pourquoi laisses-tu encore croire à Jack que tu es une femme et que tu es amoureuse de moi? Il ne me regardait pas. Je crus qu'il ne me répondrait pas, comme bien souvent par le passé, mais il prit une longue inspiration et murmura. Je suis devenue Ambre parce qu'elle convenait à mes objectifs et à mes exigences à Terrilleville. Étrangère et femme, je pouvais circuler ainsi parmi ses habitants sans qu'ils craignent pour leur sécurité ni leur pouvoir. Grâce à ce déguisement, chacun se sentait libre de me parler, esclave comme marchand, homme comme femme. Ce rôle se prêtait à mes besoins, Fitz, tout comme celui de Cire Dorée y répond aujourd'hui. Je me sentis percé jusqu'au cœur. Et c'est d'un ton glacé que j'exprimais ce qui m'était le plus pénible. Ainsi, le fou n'était qu'un personnage imaginaire, une identité que tu avais endossée parce qu'elle convenait à tes objectifs. Et quels étaient tes objectifs ? Gagner la confiance d'un roi sénile ? Obtenir l'amitié d'un bâtard royal ? As-tu pris l'apparence de ce que nous désirions le plus afin de t'introduire parmi nous ? Il ne me regardait toujours pas, mais quand j'observais son profil immobile, il ferma les yeux. Enfin, il parla.
« Naturellement. Prends-le comme tu veux. »
Cette réponse éprona ma fureur.
« Je vois. Tout n'était que faux semblant. Ça veut dire que je ne t'ai jamais vraiment connu, c'est ça ?»
Je n'attendais pas de réponse quand je me tus, suffoqué de colère et d'outrage. Pourtant.
« Si. Si. Toi, plus que n'importe qui au cours de toute mon existence. »
Ses yeux étaient baissés à présent, et une aura d'immobilité paraissait s'étendre autour de lui. « Si c'est vrai, je crois que tu me dois la vérité sur toi-même. Quelle est la réalité, fou ? Pas celle sur laquelle tu plaisantes ou que tu laisses les autres imaginer. Qui es-tu ? Qu'es-tu ?
Quels sont tes sentiments pour moi ?
Enfin, il se tourna vers moi. Son regard était bouleversé. Mais comme je continuais à le dévisager, exigeant de savoir, je vis la colère s'allumer dans ses yeux. Il redressa soudain les épaules, posa un petit soupir de dédain, comme s'il ne parvenait pas à se convaincre que je lui posais vraiment la question. Il secoua la tête, prit une grande inspiration, puis les mots jaillirent de sa bouche, comme un torrent.
« Tu sais qui je suis ? Je t'ai même confié mon vrai nom. Quant à ce que je suis, tu le sais aussi. » Tu cherches un faux réconfort en exigeant de moi que je me définisse par des mots. Les mots ne contiennent ni ne définissent personne. Un cœur en est capable, s'il le veut, mais je crains que le tien n'y soit pas prêt. Tu en sais beaucoup plus sur moi que quiconque, et pourtant tu persistes à prétendre que tout cela n'est pas moi. Que voudrais-tu que je retranche de moi? Et pourquoi devrais-je me réduire pour te faire plaisir?
Pour ma part, jamais je ne te le demanderai. Et par ces mots, admets une autre vérité. Tu connais mes sentiments pour toi, depuis de longues années. Seul ici, toi et moi, ne faisons pas semblant que tu les ignores. Tu sais que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. »
Il s'exprimait d'un ton égal, comme s'il décrivait un fait inévitable. On ne percevait nulle trace de honte, ni d'humiliation dans sa voix. Il se tut. Des paroles comme celles qu'il venait de prononcer exigent une réponse. Je repoussai tant bien que mal l'accablement induit par les corps selfiques. Puis je décidai de parler franchement et sans embâge. « Tu sais, toi aussi, que je t'aime, fou. Je t'aime comme un homme aime son ami le plus cher, et je n'en éprouve aucune gêne. Mais laissez croire à Jack, à Stéry, ou n'importe qui que notre relation dépasse les limites de l'amitié, que tu aurais envie de coucher avec moi. C'est... » Je m'interrompis, espérant un signe d'acquiescement qui ne vint pas. Au contraire, il fixa sur moi son regard ambre, où je ne vis nulle dénégation.
« Je t'aime, » dit-il à mi-voix. « Je n'impose pas de limite à mon amour. Aucune. Comprends-tu ? »
« Trop bien, malheureusement, » répondis-je en chevrotant. Je rassemblai mon courage et poursuivis d'une voix rauque. Jamais je ne... Me comprends-tu, toi? Jamais je ne pourrais te désirer comme compagnon de lit, jamais.
Il détourna les yeux. Ses joues rosirent légèrement, non de honte, mais sous l'effet d'une passion tout aussi profonde. Et il murmura d'une voix parfaitement maîtrisée.
Cela aussi, nous le savons depuis des années. Ces mots qu'il n'avait jamais été nécessaire de prononcer, je devrais désormais les porter pour le restant de mes jours. »
Il me fit face de nouveau, mais son regard paraissait aveugle.
« Nous aurions pu vivre toute notre existence sans avoir cette conversation. Tu viens de nous condamner à ne jamais l'oublier. »
Il se dirigea vers sa chambre à pas lents. Il marchait avec circonspection, comme s'il était vraiment souffrant. Soudain, il s'arrêta, et son regard revint sur moi. La colère brillait dans ses yeux, et je restai interdit qu'elle me fût adressée.
« As-tu réellement imaginé un instant que je pourrais vouloir assouvir, avec toi, un désir que tu ne partages pas ? Je sais parfaitement à quel point cela te répugnerait. Je sais parfaitement que te le demander abîmerait définitivement tout ce que nous avons vécu ensemble par ailleurs. » C'est pourquoi je me suis toujours efforcé d'éviter cette discussion que tu as imposée à notre amitié. C'était mal joué, Fitz. Mal joué. Et inutile.
Il fit encore un ou deux pas d'une démarche titubante, comme un homme qui vient de recevoir un coup violent. Puis, il s'immobilisa. D'une main hésitante, il sortit de la poche de sa robe de chambre le petit bouquet blanc et noir.
« Ce n'est pas un cadeau de toi, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il d'une voix tout à coup altérée. Son regard évita le mien. « Bien sûr que non. »«
De qui, alors ?»
Il chevrotait. Je haussai les épaules, agacé par cette question incongrue au milieu d'un entretien grave. « De la jardinière.
Elle en place un sur ton plateau tous les matins. Il inspira profondément et ferma les yeux un instant.
Évidemment, il n'était pas de toi, jamais. Alors, de qui?
Il se tut un long moment. Ses paupières closes et ses traits tirés me firent craindre soudain qu'il ne s'évanouisse. Mais il reprit à mi-voix.
Naturellement.
Ces bouquets ne pouvaient venir que d'une personne capable de voir par-delà mes déguisements. Et il ne pouvait s'agir que d'elle. Il rouvrit les yeux.
La jardinière.
Elle a ton âge à peu près. Elle a des taches de rousseur sur le visage et les bras, et les cheveux couleur de paille fraîche. J'évoquais l'image de la femme en question. Pour les taches de rousseur, c'est vrai, mais elle est châtain, pas blonde. Il ferma de nouveau les yeux, les sourcils froncés. Sa chevelure a dû foncer avec le temps. Garetha travaillait au potager quand tu étais adolescent. J'acquiesçais de la tête. Je me la rappelle, mais j'avais oublié son nom. Tu as raison. Mais alors ? Il éclata d'un rire sec, presque mordant.
Alors l'amour et l'espoir nous aveuglent tous. Je croyais que ces bouquets venaient de toi, Fitz, mais c'était une sotte idée de ma part.
En réalité, ce sont les cadeaux de quelqu'un qui, il y a longtemps, s'est entiché du fou du roi. Simple tocade, pensais-je, mais comme moi, cette personne aimait sans être aimée de retour. Pourtant, son cœur est resté assez fidèle pour me reconnaître malgré tous mes changements, pour taire mon secret tout en m'apprenant discrètement qu'elle me connaissait. Il leva le petit bouquet pour le contempler.
Noir et blanc, mes couleurs d'hiver, Fitz, à l'époque où j'étais le bouffon du roi. Garetha sait qui je suis, et elle me conserve une certaine affection.
Tu croyais que je t'offrais des fleurs ? Qu'il ait pu imaginer un tel geste de ma part me laissait pantois. Il détourna vivement les yeux, et je sentis que les mots et le ton que j'avais employés l'avaient humilié. La tête courbée, il reprit à pas lents le chemin de sa chambre. Il n'avait pas répondu à mon interjection, et j'éprouvais un brusque élan de compassion pour lui. C'était mon ami, et je l'aimais comme tel. Il m'était impossible de modifier mon point de vue sur ses désirs contre nature, mais je ne souhaitais pas le blesser, ni le mortifier. Je ne fis donc qu'aggraver la situation en déclarant
« Fou, pourquoi ne pas diriger tes inclinations là où elles seraient bienvenues ?
Garetha est une femme très attirante. Peut-être si tu faisais bon accueil à ses attentions. » Il pivota d'un bloc vers moi, et la fureur qui naquit dans ses yeux leur donna un profond éclat doré. Sous l'émotion, son teint s'assombrit, et il me demanda d'un ton acerbe.
« Eh bien quoi ? Je pourrais devenir comme toi ? Assouvir mes envies avec n'importe qui simplement parce qu'on me l'a proposé ? C'est cela que je trouverais répugnant, moi. Jamais je ne me servirai de Garetha ni de personne de cette façon, au contraire d'une de nos connaissances communes. »
Il me lança cette dernière phrase avec violence. Il fit deux pas de plus vers sa chambre, puis se retourna encore une fois avec un sourire effrayant d'amertume.
« Attends, j'ai compris. Tu t'imagines que je n'ai jamais connu cette sorte d'intimité, que je me suis gardé pour toi ?»
Il eut un grognement de mépris.
« Ne te flatte pas, Fitz Chevalerie. Tu n'aurais sans doute pas valu la peine que je t'attende. »
J'eus l'impression d'avoir reçu un coup violent, mais c'est lui dont les yeux se révulsèrent et qui s'effondra par terre en une masse inerte. L'espace d'un instant, je demeurai figé de rage et de terreur mélangées. Comme cela est possible seulement à des amis, chacun de nous avait touché l'autre à l'endroit le plus sensible. La face la plus noire de moi-même m'engageait véhémentement à le laisser gisant au sol. Je ne lui devais rien. Mais en une fraction de seconde, je m'agenouillais à côté de lui. De ses yeux presque clos n'apparaissait qu'une mince ligne blanche. Et il haletait comme s'il venait d'achever une course.
« Fou !»
dis-je, et mon amour-propre glissa malgré moi une note agacée dans ma voix.
« Que t'arrive-t-il encore ?»
D'une main hésitante, je tâtai sa joue. Elle était tiède. Ainsi, ces derniers jours, il ne jouait pas la comédie quand il se montrait mal portant. Normalement, la peau du fou était fraîche, plus que celle d'un homme ordinaire, si bien que sa relative tiédeur devait correspondre chez moi à une fièvre brûlante. J'espérais qu'il s'agissait seulement d'une de ces étranges crises qui survenaient de temps en temps, où il se traînait à la fois fébrile et sans force. Selon mon expérience, il se remettait en un jour ou deux, et, telle une mue de serpent, sa peau se détachait en grands lambeaux pour laisser apparaître un teint plus foncé. L'évanouissement auquel je venais d'assister ne tenait peut-être qu'à sa faiblesse lors de ses accès. Pourtant, alors que je me courbais pour le prendre dans mes bras, la crainte me saisit qu'il ne fût plus gravement malade. On pouvait dire que j'avais bien choisi mon moment pour lui demander des explications. Entre lui qui tremblait de fièvre et moi qui subissais les effets de l'écorce elfique, pas étonnant que notre conversation eût rapidement tourné à l'aigre. Je le soulevai et l'emportai dans sa chambre, dont j'ouvris la porte d'un coup de pied. Il régnait une odeur lourde et oppressante dans la pièce. Les draps étaient froissés et chiffonnés, comme s'il avait passé la nuit à se tourner et à se retourner. Mais quel crétin sans cervelle j'avais été de n'avoir pas même envisagé qu'il pût être réellement souffrant. Je le déposai sur le lit, secouai un oreiller pour le regonfler et le glissai maladroitement sous sa tête, puis m'efforçai d'arranger draps et couvertures autour de lui. Que faire ? Pas question de quérir le guérisseur. Pendant tout le temps où il avait résidé à Castelserre, le fou n'en avait jamais laissé un seul le toucher. Parfois, il allait demander un remède à Burick quand celui-ci occupait la fonction de maître des écuries, mais ce recours était désormais hors de ma portée. Je tapotai doucement sa joue, mais il ne manifesta par aucun signe qu'il revint à lui. Je décidai d'écarter les lourds rideaux des fenêtres, puis je débloquai les volets et les ouvris à leur tour sur la froide journée d'hiver. Un air pur et glacé envahit la chambre. Je pris un des mouchoirs de cire dorée, le déployai, y déposai de la neige prélevée sur un appui-fenêtre, repliai le tissu pour former une compresse et revins auprès du lit. Je m'assis sur le bord du matelas et appliquai doucement le mouchoir sur le front du fou. Il réagit légèrement, puis, quand je posai le linge sur le côté de son cou, il reprit conscience avec une promptitude effrayante.
« Ne me touche pas !»
gronda-t-il en repoussant mes mains. Choqué de voir mes soins ainsi rejetés, je passai aussitôt de l'inquiétude à la colère.
« Comme tu veux !»
Je m'écartai vivement de lui et jetai la compresse sur sa table de chevet.
« Laisse-moi, s'il te plaît !»
dit-il sur un ton qui vidait de son sens la formule de politesse. J'obéis. Avec une sorte de fureur, je remis l'autre salle en ordre et rangeai bruyamment la vaisselle du repas sur le plateau. Nous n'avions guère mangé ni l'un ni l'autre. Tant pis. Mon appétit s'était envolé de toute manière. Je rapportai les affaires aux cuisines, après quoi je tirai de l'eau et rassemblai une provision de bois pour nos appartements. Quand je remontai les bras chargés, je trouvai close la porte de la chambre du fou et j'entendis les claquements des volets qu'on refermait. Je toquai sans douceur à lui.
« Sire doré, j'ai du bois et de l'eau pour votre chambre. »
Comme il ne répondait pas, je remplis la huche de lâtre et approvisionnai en eau ma réserve de toilette. Je laissai le restant devant sa chambre. Colère et douleur s'empoignaient violemment en mon cœur. La plupart de mes reproches s'adressaient à moi-même. Pourquoi ne m'étais-je pas rendu compte qu'il était vraiment malade? Pourquoi avais-je persisté dans cette discussion sans tenir compte de ses objections? Et surtout, pourquoi ne m'étais-je pas fié à l'instinct de notre vieille amitié au lieu d'écouter les ragots de ceux qui n'y connaissaient rien? La douleur, elle, venait de ce qu'Imbre m'avait souvent répété et que je savais donc parfaitement. Demander pardon ne pouvait pas toujours tout réparer. Or, je le craignais fort, les dégâts que j'avais causés aujourd'hui étaient irréparables. Le fou m'en avait averti. La conversation que nous avions eue resterait un fardeau qu'il nous faudrait porter jusqu'à la fin de nos jours. Mon seul espoir était que, le temps aidant, la mémoire émousserait le tranchant de mes paroles. Celle du fou m'entaillait encore comme des rasoirs. Je garde des 3 ou 4 jours suivants un souvenir brumeux d'accablement. Je ne vis pas le fou une seule fois. Il laissait encore entrer son jeune serviteur dans sa chambre, mais, autant que je puisse m'en rendre compte, lui-même n'en sortait jamais. Jack dut le voir au moins une fois encore avant le départ de la délégation terrilvillienne, car elle m'arrêta un jour dans un escalier pour me dire d'un ton polaire que Sire Doré avait complètement clarifié dans son esprit toutes les idées erronées qu'elle pouvait entretenir quant à mes relations avec mon maître. Elle me pria de l'excuser si ses suppositions m'avaient le moins du monde mis dans l'embarras, et puis, dans un murmure sifflant, elle ajouta qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi cruel et stupide que moi. Ce furent les dernières paroles qu'elle m'adressa. Les représentants quittèrent Castelserre le lendemain. La reine et ses ducs ne leur avaient fourni aucune réponse définitive quant à une éventuelle alliance, mais avaient accepté leur don d'une dizaine d'oiseaux messagers et leur avaient remis autant de pigeons voyageurs. Les négociations se poursuivraient donc. Peu après leur départ, un incident mit le château en effervescence. Tard dans la soirée, la reine en personne sortit avec une compagnie de ses gardes. Humbre m'avoua que lui-même trouvait cette décision un peu excessive, et les ducs renchérissaient manifestement sur cette opinion. Cette excursion avait pour but d'empêcher une exécution à Fontmise, petit village proche de la frontière entre Serre et Ripon. La souveraine et ses gardes s'étaient mises en route en pleine nuit, à l'évidence en réponse à un rapport d'espion annonçant la pendaison, puis la crémation d'une femme le lendemain matin. La flamme des torches battant au vent comme des pennons, les chevaux soufflant des nuages de vapeur dans l'air glacé, ils étaient partis en hâte. La reine, vêtue de son manteau violet et de sa tunique en renard blanc, chevauchait au milieu des hommes. J'avais regardé le spectacle depuis la fenêtre en regrettant futilement de ne pas monter à ses côtés. Mon rôle de domestique de Sire Doré me condamnait, semble-t-il, à me trouver toujours là où je ne le voulais pas. La troupe était rentrée le lendemain soir, ramenant avec elle une femme en triste état qui tenait à peine sur sa selle. J'en conclus que la reine et ses soldats étaient arrivés au dernier instant et lui avaient littéralement retiré la corde du cou. La foule n'avait opposé aucune résistance active aux gardes armés et montés. Ketreken ne s'était pas contenté de réunir les conseillers du village et de leur infliger une réprimande officielle qui avait duré des heures. Elle avait ordonné qu'on rassemble tous les villageois sans exception, de force s'il le fallait, sur la place centrale, où elle leur avait lu en personne la proclamation royale interdisant toute exécution au seul motif de possession du vif. Ensuite, chacun, jusqu'aux plus petits enfants capables de tenir une plume, avait dû apposer sur le document une marque qui attestait qu'il était présent, qu'il avait entendu le décret et qu'il se pliait à ses termes. Le hameau étant dépourvu d'hôtel de ville, Ketreken avait ordonné que le texte signé fût affiché de façon permanente au-dessus de la cheminée de l'unique taverne. Elle avait averti la population que ses patrouilles passeraient fréquemment vérifier qu'il se trouvait toujours à sa place et intact. Elle avait poursuivi en déclarant que, si l'un des signataires prenait part à nouveau à un attentat contre la vie d'un vivier, le royaume confisquerait ses propriétés et l'interdirait de séjour non seulement en Serre, mais dans les six duchés tout entiers. Au retour de la reine, on avait conduit la femme à l'infirmerie de la garde pour soigner ses blessures. Les villageois l'avaient traitée sans douceur. Elle venait d'arriver au hameau et n'y connaissait presque personne, à part sa cousine, chez qui elle se trouvait en visite. C'était elle qui l'avait dénoncée au conseiller, en prétendant l'avoir surprise en train de parler à des pigeons. Comme on mentionna une querelle d'héritage, je me demandais si l'accusée avait vraiment le vif, ou bien si elle ne représentait pas, plus simplement, une menace pour les biens que possédait sa cousine. Quand elle fut assez remise pour voyager, la reine Ketreken lui fit don d'une somme d'argent, d'un cheval et, dit-on, de terre loin du village de sa cousine. J'ignore ce qu'il en fut réellement, mais elle quitta rapidement Serre dès qu'elle se trouva en état de se déplacer. L'incident devint le sujet de nombreuses controverses. Certains tenaient que la reine avait outrepassé ses droits, que Fontmise chevauchait en réalité la frontière entre Serre et Ripon, et qu'elle n'aurait pas dû agir sans au moins consulter le duc de Ripon. Celui-ci paraissait voir dans l'intervention personnelle de la souveraine une critique et un affront contre lui. Bien qu'il gardât un silence diplomatique, on commença de murmurer que la reine Montagnarde se donnait beaucoup de mal pour nouer des liens avec des étrangers comme les Outriliens et les marchands de Terrilleville et n'accordait pas à ses ducs et aux duchés, qu'ils représentaient, le respect qui leur était dû. Ne se fiait-elle donc pas à sa propre noblesse pour régler ses affaires intérieures? De là, on poussa les récriminations encore plus loin. Ne pensait-elle pas qu'une épouse des six duchés suffirait à son demi-montagnard de fils? Plus insidieux, on laissa entendre que la lignée du duc Shemshai avait subi un affront, car le prince avait manifesté un intérêt certain pour Dame Vanta avant que la reine-mère n'y mît un point final. Pourquoi courtisait-il cette Narcheska outrilienne débordante de morgue alors que le jeune prince lui-même se rendait compte qu'une damoiselle bien plus digne de lui n'attendait que ses avances? Le fait qu'aucune de ces attaques n'était formulée de façon officielle empêchait Ketriken d'y répondre clairement. Pourtant, elle le savait. Elle ne pouvait y faire la sourde oreille sans risquer d'attiser le mécontentement de Ripon et de Orphon et de le voir gagner les autres duchés. Elle tenta de dénouer la situation en demandant à ses ducs d'envoyer chacun un représentant afin de former un conseil ayant pour fonction de trouver des moyens de mettre un terme à la persécution des Vifiés. Mais j'aurais pu lui prédire moi-même le résultat. Les délégués proposèrent que tous les Vifiés s'inscrivent sur une liste qui permettrait de s'assurer qu'on ne les maltraitait pas injustement. Il fut suggéré aussi de déplacer les Vifiés de certains villages et de les inciter à n'occuper que certaines zones géographiques, pour leur propre sécurité. Enfin, sommet de la générosité, on conseilla d'offrir à toute personne douée du vif de se rendre en Calcède ou à Terrilville, où elle recevrait assurément meilleur accueil que dans les six duchés. Ma réaction à ces propositions fut sans surprise. L'esprit le plus obtus était capable de comprendre que ces solutions d'inscription sur des listes et de relogement dans des secteurs précis des six duchés pouvaient aisément préparer un massacre à grande échelle. Quant à l'offre d'installation en Calcède ou à Terrilville, ce n'était guère plus qu'un bannissement déguisé. La reine déclara sèchement aux conseillers que leurs suggestions étaient dénuées d'imagination, et elle leur ordonna de reprendre leur ouvrage. C'est alors qu'un jeune homme originaire de la bourg fournit sans le vouloir un solide avantage à la souveraine. Sur le ton de la plaisanterie, il déclara « Les exécutions de Vifiés ne dérangent pas la plupart des gens. À la vérité, ceux qui pratiquent la magie des bêtes sont seuls responsables de leur sort. Comme leur mise à mort ne gêne que les Vifiés, c'est peut-être auprès d'eux qu'il faudrait chercher la solution. » La reine saisit l'affirmation au bon. Le sourire ironique du jeune homme s'effaça et les rires étouffés des autres délégués moururent quand elle annonça. « Voilà enfin une proposition imaginative et digne d'intérêt. J'agirai selon les recommandations de mes conseillers. » Seul, peut-être, Humbre et moi savions qu'elle chérissait depuis longtemps l'idée qu'elle s'apprêtait à mettre en pratique. Elle rédigea une proclamation royale et la fit porter par courrier aux quatre coins du royaume, où elle devait non seulement être lue à la population des villes et des villages, mais aussi placardée de façon bien visible. La reine invitait les Vifiés, aussi connus sous l'appellation de membres du lignage, à constituer une délégation pour la rencontrer et discuter avec elle des moyens par lesquels ils pouvaient être mis fin à l'injuste persécution et au meurtre dont ils étaient victimes. Elle choisit elle-même ses termes, sans tenir compte des injonctions d'Humbre d'employer un ton plus circonspect. De fait, plus d'un seigneur se froissa de l'accusation indirecte qu'elle portait contre les nobles d'encourager les assassinats dans leur fief. Pour ma part, toutefois, j'appréciais son attitude et supposais une réaction similaire chez d'autres Vifiés, sans nourrir guère d'espoir, néanmoins, qu'une délégation se présente chez la reine pour défendre leur cause. Pourquoi risqueraient-ils leur vie en dévoilant leur identité? Après ma désastreuse tentative pour obtenir des explications du fou et apaiser notre querelle, j'avais acquis au moins assez de sagesse pour me montrer plus prudent avec Humbre, la reine et le prince. Je laissai les fragments de manuscrits sur la table de travail, où je savais que mon vieux mentor les trouverait, et une rencontre imprévue avec lui dans la tour me donna l'occasion de lui demander pourquoi il m'avait dissimulé une partie de leur contenu. Sa réponse, celle de l'assassin professionnel qu'il était, me prit au dépourvu.
« Étant donné les circonstances, ces éléments te touchaient de trop près. J'avais besoin que tu m'aides à retrouver le prince et à le ramener sain et sauf à Castelserre. « Si je t'avais fait lire ce texte, cela n'aurait pas été ton objectif premier. Tu aurais consacré toute ton énergie à découvrir l'auteur du message alors que nous n'étions même pas sûrs qu'il y avait une relation avec la disparition du prince. Il fallait que tu gardes la tête froide, Fitz. Or, je n'avais pas oublié ton tempérament emporté d'autrefois, qui t'avait souvent conduit à des actes inconsidérés. » Je t'ai donc caché ce qui risquait, à mon sens, de te distraire de l'aspect le plus important de ta mission. »
Ces propos n'atténuèrent pas complètement ma rancœur, mais ils me firent prendre conscience qu'Humbre adoptait souvent devant un problème un point de vue très différent de celui auquel je m'attendais, et je crois qu'il resta un peu interdit en constatant que j'acceptais avec calme son raisonnement sans l'accabler de reproches, dont je prévoyais pourtant moi-même de l'abreuver encore peu de temps auparavant. La mine presque penaude, il m'assura, sans que j'eusse rien demandé, qu'il me savait désormais plus mûr, et il reconnut s'être montré cavalier en gardant le message complet par devers lui. « Et si je m'y intéressais à présent ? » questionnai-je d'une voix posée.
« En effet, il nous serait utile de savoir qui l'a envoyé, » répondit-il, « mais pas au risque de perdre le maître d'art du prince ou de le détourner de sa tâche. J'ai suivi avec assiduité toutes les pistes qui pouvaient nous permettre de remonter jusqu'à l'auteur, mais elles se dissipent comme brume au soleil au bout d'un moment. Je n'oublie pas le rat non plus, mais en dépit de toutes mes enquêtes, je n'ai encore trouvé nulle trace d'un espion doué du vif, et tu sais que notre surveillance de civil ne donne rien. »
Il soupira.
« Je t'en prie, Fitz, fais-moi confiance. Laisse-moi m'occuper de ces recherches et permets-moi de t'employer là où ton rôle est le plus essentiel. »
« Ainsi vous avez parlé à la reine, et elle accepte mes conditions ?» Son regard vert se durcit et prit la teinte du minerai de cuivre.
« Non, je ne lui ai rien dit. J'espérais que tu reviendrais sur tes positions. »
« Eh bien, vous aviez raison. » fis-je en tâchant de dissimuler l'amusement que j'éprouvais devant son air ébahi. Puis, avant qu'il n'eût le temps de croire que j'avais complètement capitulé, j'ajoutai. J'ai décidé que je devais m'en entretenir personnellement avec elle.
« Ah !»
il chercha ses mots.
« Là-dessus, nos avis concordent. Je lui demanderai de t'accorder une audience aujourd'hui même. »
Et nous nous séparâmes, en désaccord, mais sans nous être querellés. Il me lança un regard singulier en sortant, comme s'il n'arrivait toujours pas à comprendre mes motivations. J'en éprouvais un sentiment de satisfaction, mêlé de regret de n'avoir pas appris cette leçon plus tôt. Aussi, quand il me notifia mon rendez-vous avec la reine, j'abordai cette nouvelle rencontre avec calme. Ketriken avait dressé une petite table garnie de vin et de gâteaux. Je m'étais concentré pour atteindre une certaine équanimité avant d'entrer. Et c'est peut-être ce qui me permit de sentir qu'elle se tenait sur ses gardes. Ma reine était assise bien droite, l'air assuré, mais je reconnus une armure dans son immobilité même. Elle aussi s'attendait à des paroles sans mesure et violentes. Son attitude méfiante faillit me pousser à m'offusquer ouvertement du jugement qu'elle portait à l'évidence sur mon caractère, mais je me ressaisis, pris une profonde inspiration et refoulai la marée montante de mon indignation. Je fis un effort pour m'incliner solennellement devant elle, attendre qu'elle m'invite à partager sa table et même échanger quelques lieux communs sur le temps et sa santé avant d'aborder le véritable sujet de ma présence. Malgré cela, je remarquai un léger plissement au coin de ses yeux. Manifestement, elle s'attendait à une diatribe. Depuis quand ceux qui me connaissaient le mieux me prenaient-ils pour un homme au tempérament excessif et acariâtre? Toutefois, je détournai résolument mon esprit de toute considération sur la répartition des responsabilités dans ce domaine, plantai mon regard dans celui de ma reine et demandai calmement. « Qu'allons-nous faire à propos d'Orty ?» L'espace d'un instant, ses yeux bleu-verts s'agrandirent, lui donnant l'air presque ébahi, et puis elle se reprit. Elle se radossa dans son fauteuil et me regarda un moment en silence. « Que vous a dit Imbre sur ce sujet ?» fit-elle enfin. Je ne pus retenir un sourire espiègle. Un instant, j'oubliais toutes les inquiétudes que je nourrissais pour ma fille, et je déclarais « Il m'a dit de me méfier des femmes qui répondent à une question par une autre question. » Pendant une fraction de seconde, je crus avoir dépassé les limites de la bienséance, et puis Ketriken sourit à son tour. L'air attristé malgré ce léger sourire, elle baissa sa garde, et je perçus tout à coup que, derrière sa façade sereine, elle était lasse et troublée. Trop de préoccupations lui mordaient les talons comme autant de roquets glapissants. Les fiançailles du prince avec l'imprévisible Narcheska, et la quête ridicule qu'il avait acceptée. La question des vifiers, l'épi qui semait la zizanie dans la politique du royaume, la rétivité des nobles, et même Thérilleville avec sa guerre et ses dragons. Tous ces problèmes se disputaient son attention.
Comme une rafale de vent vagabonde ravive une braise mourante, son expression de bête aux abois réveilla en moi un lointain écho de l'amour que Vérité lui portait. Car le lien d'art que je partageais avec mon roi m'avait laissé entrevoir ses sentiments de temps en temps. Néanmoins, j'éprouvais une impression étrange à ressentir cette résonance diffuse de sa tendresse pour elle. Cela, ainsi que l'affection que je lui vouais, déclencha chez moi un élan brusque et irrésistible de sympathie pour elle. Comme elle se laissait aller contre le dossier de son siège, manifestement soulagée de constater que je ne souhaitais pas entrer en conflit avec elle, la honte m'envahit un instant. Dans la confusion de mes propres soucis, j'oubliais trop souvent que les autres peinaient sous des fardeaux tout aussi lourds que les miens. Elle relâcha sa respiration qu'elle avait retenue. « Fitz, je me réjouis que vous soyez venu en personne me parler de ce sujet. Imbre est un conseiller plein de sagesse et d'expérience et d'une fidélité absolue au trône des loin-voyants. Les affaires de l'État n'ont aucun secret pour lui. Il connaît aussi le cœur de mon peuple, et là aussi son opinion est pertinente et fondée. Mais quand il évoque Orti, il s'exprime toujours en conseiller de la couronne. » Elle tendit le bras par-dessus la table et posa ses doigts graciles sur la peau rude de ma main. « Je préfère parler à son père, en ami. » Je conservai le silence. Sans ôter sa main de la mienne, elle poursuivit. « Fitz, Orti doit être formé à l'art, vous le savez bien, au fond de vous-même. Il ne s'agit pas seulement de la protéger des dangers que cette magie fait courir aux profanes. Oui. » J'ai étudié certains manuscrits sur ce sujet quand il m'a fallu décider quelle attitude adopter face au talent de devoir. Mais aussi de la placer à l'abri à cause de ce qu'elle est, l'éventuelle héritière des loin-voyants. Je restais le souffle coupé. Je m'attendais à discuter de l'opportunité d'enseigner l'art à Orti, non à voir ressusciter cette menace plus ancienne et plus grave qui pesait sur elle. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer mon désarroi, mais ce fut sans importance, car la reine n'en avait pas terminé. Nous ne pouvons changer ce que nous sommes. Pour toujours, je serai la reine de vérité. Vous êtes le fils de chevalerie, illégitime, mais loin-voyant néanmoins. Pourtant, pour notre peuple, vous n'êtes plus de ce monde. Quant à Imbre, il est trop âgé et la couronne ne l'a jamais reconnu. Auguste, comme vous le savez, n'a jamais recouvré complètement la raison après que Vérité m'a contacté par son biais. Mon roi, j'en suis certaine, n'a pas voulu les dégâts qu'il a infligés à son cousin, mais les faits sont là. Nous ne pouvons changer ce que nous sommes, et Auguste, même s'il appartient de nom à la famille royale, est devenu avant l'heure un vieillard radotant, et l'on ne peut plus le considérer sérieusement comme un héritier possible au trône, si jamais la lignée de Vérité venait à faillir. Fasciné par les emboîtements imparables de sa logique, je me trouvais contraint d'acquiescer à ses propos, alors même que je voyais où conduisait inexorablement le train de ses réflexions. Cependant, il doit y avoir, il doit toujours y avoir, un membre de la famille en réserve, prêt à monter sur le trône une fois toutes les autres solutions épuisées. Son regard se perdit derrière moi. « Votre fille, bien qu'invisible aux yeux de son peuple, est la suivante après mon fils. Nous ne pouvons changer ce qu'est Orti. Les vœux les plus fervents ne la rendront pas moins loin-voyant. Si cela se révèle nécessaire, Fitz Chevalerie loin-voyant, votre fille devra servir le trône. C'est ce que nous avions conclu il y a de nombreuses années. Je vous y savais opposé à l'époque où les documents officiels ont été signés à Jaamp, et je vous y sais encore opposé. Mais elle est une loin-voyant reconnue par vous, son père, et par moi, en tant que reine, et une ménestrelle à qui vous aviez confié la vérité en a été témoin. Le manuscrit existe toujours, Fitz, comme il se doit. Même si vous, Imbre, Astéry, Chant d'Oiseau et moi devions périr à l'instant, il n'en demeurerait pas moins dans les archives royales, augmenté d'un codicille indiquant où trouver Orti. Il doit en être ainsi, Fitz. Nous ne pouvons changer son ascendance, ni annuler sa naissance. D'ailleurs, le désireriez-vous? Je ne le pense pas.
Un tel souhait serait un affront aux dieux. Tout à coup se produisit un phénomène dont j'avais déjà fait l'expérience. Je vis la réalité par les yeux de quelqu'un d'autre. Cette brusque perception intérieure du mode de pensée de la reine vida ma colère de son contenu. Pour Ketriken, le fait qu'Orti eût sa place dans la ligne de succession était inéluctable et rien ne pouvait le remettre en cause. Mes désirs ou les siens n'avaient rien à voir dans l'affaire. La situation était ainsi, et il était impossible de la modifier. Le cas d'Orti ne pouvait faire l'objet d'aucune négociation. Jamais la reine ne la délirait d'un devoir auquel sa naissance l'astreignait. Tel était le point de vue de Ketriken. Je m'apprêtais à parler, mais elle leva la main pour me demander de la laisser achever de s'exprimer. « Je le sais, vous tremblez à l'idée qu'Orti doive endosser le rôle d'Obla. Je forme, moi aussi, le vœu que cela n'arrive jamais. Songez à ce que cela signifierait pour moi. Cela voudrait dire que mon fils unique est mort, ou incapable d'assumer sa fonction. » En tant que mère, je repousse cette éventualité le plus loin possible au fond de mon esprit, tout comme vous implorez le destin de ne jamais imposer à Orti le fardeau d'une couronne. Toutefois, en dépit de nos prières ferventes, nous devons nous préparer à ces possibilités, afin que votre fille soit prête à bien servir son peuple. Elle doit apprendre non seulement l'art, mais aussi différentes langues, l'histoire de son royaume et de ses habitants, et les manières et les coutumes attachées au trône. C'est négligence de notre part de ne pas lui avoir fourni cette éducation, et négligence impardonnable qu'elle ne sache rien de son ascendance. S'il vient un temps où elle doit servir le trône, croyez-vous qu'elle nous remerciera de l'avoir maintenue dans l'ignorance ? Ces mots portèrent un nouveau coup à ma conviction. Le monde se déforma autour de moi, et je me retrouvai soudain en train de remettre en cause chaque décision que j'avais prise concernant ma fille. La conclusion à laquelle je parvins me mit le cœur au bord des lèvres. Mais je l'énonçai tout haut. Elle m'en voudra à mort de ne lui avoir rien dit. Mais je ne vois pas comment y remédier si tardivement sans causer encore davantage de dégâts. Je me voûtais dans mon fauteuil. Ketriken, même si vous jugez que je manque à mon devoir, je continue à vous supplier. Laissez-la poursuivre son existence actuelle. Si vous accédez à cette demande, je vous promets d'employer toute mon énergie et toute ma volonté à veiller à ce qu'elle ne devienne jamais Obla. J'avalai ma salive, puis, encore une fois, je me liai par ma parole. Encore une fois, je me tins devant un souverain loin-voyant et remis ma vie entre ses mains. Mais cette fois, c'est en adulte que je m'engageais. Je m'efforcerai de former un clan pour devoir. J'assumerai la fonction de maître d'art. La reine me regarda sanciller, puis elle s'enquit au bout d'un moment. « En quoi cette proposition est-elle nouvelle de votre part, Fitz-Chevalerie ? Ou votre requête ?» Je saisis la rebuffade contenue dans ces questions et j'inclinai la tête. « Peut-être... en ce que je m'attellerai à la tâche de plein gré, et sans que certaines arrière-pensées freinent mes efforts. Et accepterez-vous aussi la parole de votre reine, sans demander à ce qu'elle vous soit répétée ? Je vais m'exprimer clairement. Je permettrai à votre fille Orti loin-voyant de rester là où elle est, avec Burik, pour père adoptif, tant que cette situation ne nous mettra pas en danger. Accepterez-vous cette promesse et mon engagement de la respecter ? Nouvelle rebuffade. Avais-je froissé son amour-propre à force d'exiger sur tous les tons qu'on l'ait sorti en paix ? Peut-être. Oui, répondis-je à mi-voix. Bien, fit-elle, et la tension qui s'était accumulée entre nous décrut. Nous restâmes un moment face à face sans rien dire, comme si le silence appuyait l'affirmation de la reine. Puis, sans un mot, elle me servit du vin et posa un petit gâteau épicé devant moi. Pendant quelques minutes, nous nous restaurâmes et parlâmes, mais seulement de sujets sans conséquence. Je ne mentionnais pas que devoir me battait froid. Je réglerai moi-même la question avec le prince, même si j'ignorais comment. Quand je me levai pour prendre congé, elle me regarda en souriant. Je regrette d'avoir si peu l'occasion de m'entretenir avec vous, Fitz-Chevalerie. Ces faux-semblants que nous devons maintenir me pèsent, car ils nous éloignent l'un de l'autre. Vous me manquez, mon ami. Je la quittais, mais j'emportais dans mon cœur ces mots comme une bénédiction.